I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouais, elle dit que c'est le nouveau point Godwin, le féminisme dans nos ciné, quoi.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui prend son courage à deux mains pour se colter à un mauvais film, il faut bien le dire. Sisters, comédie US signée Jason Moore, avec deux de nos chouchous, Tina Fey et Amy Poehler, qui ne parviennent pas à sauver le désastre, mais c'est aussi l'occasion pour nous de causer de l'état justement de la comédie américaine en général, aux prises avec un politiquement correct de plus en plus restrictif. Et pour en parler, quatre stand-uppers de folie. Charline Roux, salut Charline.
Bonsoir Paris.
Mon dieu, Rafik Djoumi, salut Rafik.
Salut Tom.
Alexandre Hervaux, salut Alex.
Salut Thomas.
Et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane.
Salut Thomas.
J'ai été un peu déçu par Alexandre et Stéphane. Allez, c'est nos ciné, épisode 51 et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Sisters, c'est l'histoire méga surprise de deux sœurs, Quadra Fey et Poehler, qui font un petit crochet chez papa et maman dans une charmante banlieue pour vider leur chambre d'ado avant que la maison justement ne soit vendue, et au passage elles organisent une méga teuf dans un gros revival ado qui évidemment part complètement en sucette.
I heard you were having a party from someone who got invited. It's pretty sad.
It's a snazzy belt.
Well, thank you.
Yeah, congrats on your wrestling championship.
Et donc c'est pas génial, hein. Très franchement c'est raté, c'est assez balourd, c'est désespérément pas drôle. Poehler et Fey font tout ce qu'elles peuvent pour sauver les meubles, quitte à en faire presque trop, mais je donne sans plus attendre la parole. Mes camarades autour de la table, Sisters, qu'en avez-vous pensé, Charline?
C'est long.
Ah, merci, Rafik.
Je pense que Charline doit ouvrir le débat, puisque elle a vu le film il y a moins de 6 heures, nous
c'est
on
vrai.
A déjà tous oublié.
D'ailleurs, petite récrimination, j'en ai assez de venir dans cette émission pour parler des films que je n'ai pas aimés. Non, c'est très long et en fait, c'est une succession de sketchs plus ou moins réussis, des deux qu'on adore tous ici, je
oui.
pense, j'imagine. Elles y mettent plus ou moins d'énergie, plus ou moins de génie. Après, on sait qu'elles sont super bonnes sur l'impro, donc on sent bien les sketchs qui ont été improvisés. C'est pas insupportable, hein. Ça reste assez plaisant, mais c'est vraiment très long, c'est balourd. Il n'y a pas d'histoire, enfin, en tout cas, elle est extrêmement maltraitée.
Ça, oui, ça tient pas grand-chose.
Il y a plein de pistes ouvertes sur l'histoire de ces deux sœurs, notamment le fait d'être mère, d'être responsable. Rien n'est exploité. Toute la galerie de personnages autour, on les a déjà tous vus ailleurs, mieux. Et c'est long, c'est vraiment long, quoi. Enfin,
oui, ça fait 2 heures.
Ouais, c'est ça.
Deux heures
de sketch, c'est même quand c'est des gens qu'on aime bien, c'est vite indigeste, en fait.
Rafik.
Globalement, le problème de ce film, c'est de chercher à excuser constamment ces personnages, à ne jamais oser montrer ces deux nanas se comporter comme des connes, alors que ça devrait être un des ressorts comiques. Il y a une raison pour laquelle elles entretiennent cette relation entre sœurs, c'est que elles voient chacune chez l'autre des défauts abominables. Mmh. Et systématiquement, avant même que la séquence soit finie, il faut rétablir la balance et montrer que voilà, qu'il y a un bon fond, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. C'est donc déjà il y a un côté comédie familiale plaisante, mais dans le mauvais sens du terme.
Plutôt complaisante que plaisante,
voilà,
on dirait.
Et un manque total d'agressivité, alors que c'est vendu comme une comédie de frat boys, quoi. C'est-à-dire,
t'as vraiment l'impression que c'est censé être Step Brothers au féminin.
Voilà,
hein.
C'est ça. Sauf que c'est un Step Brothers dans lequel tous les personnages doivent être épargnés.
Voilà.
Donc, je pense que c'est un film qui est effectivement emblématique d'un courant qui a commencé à devenir problématique maintenant il y a 2 ans aux États-Unis, qui a commencé à passer dans les facs américaines,
oui.
où voilà, qui sont contaminés par ce qu'on appelle une philosophie du trigger warning, ou de ce que les étudiants appellent les micro-agressions, c'est-à-dire qu'en fait il faut éviter à tout prix que quelqu'un dans l'assistance puisse être offensé. Ça concernait au départ les cours que ces étudiants recevaient, tu vois. Voilà, on leur donne des cours de droit et puis tout d'un coup on va leur parler du viol. Quelqu'un prononçait le mot viol, mais donc la personne dont la grand-mère s'est fait violer par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale elle est traumatisée parce qu'elle a entendu le mot viol, donc on ne peut pas étudier ce texte de loi sur le viol parce qu'il y a le mot viol dedans. Bon, bref, c'est très mal résumé, mais c'est un petit peu ce type de courant-là.
Ça fait l'objet d'un arc narratif absolument génial dans la dernière saison de South Park.
Oui, tout à fait, exactement. Et c'en est arrivé à la considération de ce qui était acceptable dans l'humour. Et beaucoup de comédiens américains ont tiré le signal d'alarme. Je crois que le premier important à l'avoir vraiment tiré, c'était Jerry Seinfeld, voilà, qui a décidé d'arrêter ses tournées dans les campus parce qu'il se faisait siffler, se faisait vraiment littéralement agresser.
Et il disait que lui, en 30 ans, n'avait jamais vécu ça.
Il n'avait jamais vécu ça. John Cleese aussi, quand même un vieux de la vieille, qui est pareil, décidé d'arrêter. Ça peut, des comédiens qui se sentent, comment dire, presque honteux d'avoir à expliquer aux gens ce qu'est l'humour à la base. C'est-à-dire que l'humour, oui, c'est une arme de destruction massive. Oui, l'humour, c'est agressif. Oui, l'humour, ça fout en l'air vos convictions. Mais comme on a affaire à des étudiants, là, en l'occurrence, qui sont complètement enveloppés dans une espèce de cocon idéologique où il ne faut surtout pas les bousculer en quoi que ce soit, d'évidence, un humoriste va être un agresseur, ouais. une micro-agression. Quoi. Et ça commence à contaminer la comédie, je pense, dans les dernières comédies américaines qu'on a pu voir, de façon assez voyante. Tina Fey, qui est donc productrice de Sisters, a enchaîné avec un autre film qui s'appelle Whiskey Tango Foxtrot. Donc voilà, Tina Fey, on la représente pas. C'est une nana c'est une success story à l'américaine, quoi, qui fait tout, qui écrit, qui met en scène, qui chante, qui fait des claquettes, qui pourrait être championne de tennis au passage. Voilà. Elle est juste extraordinaire dans l'affirmation de sa personne, et elle s'est fait défoncer pour ce film-là parce qu'il ne répondait pas aux tests de Blofeld ou Becherel, ou je ne sais même pas comment on s'appelle ça. Elle s'est fait accuser de racisme, etc., de whitewashing et de tout ce qu'on veut. Tina Fey, bordel, quoi. Tina Fey, misogyne, raciste. Pourquoi ? Parce que sa comédie fait des blagues un peu potaches sur les Arabes, et qu'elle présente un personnage de femme qui n'est pas forcément très glorieux. On en arrive à un moment où le mot d'ordre de pas mal de ces comiques aujourd'hui, c'est « better safe than sorry ». Donc ils sont dans un mode d'autocensure.
Pas tous, justement. T'en as qui essayent de sortir de ce truc-là.
Moi, j'ai lu volontairement de ça.
Ouais, j'ai lu une interview récente de Ricky Gervais là, qui disait clairement que pour lui, c'était l'idée même, en fait, c'était qu'il avait pas envie de se faire chier à expliquer aux gens qu'ils comprennent pas la blague, en fait, parce que c'en est une, tu vois, et que donc quelque part il met. Bon, là, on va rentrer un peu dans un contexte politique parce que c'est lui qui en parle là-dedans, mais qui explique que d'un côté, en fait, on a un mec comme Donald Trump qui balance tous ces trucs-là, qui se fait constamment, en fait, ramener à l'ordre par les médias, mais qui arrête pas d'en parler. Et à côté de ça, en fait, les mecs qui font des blagues sur ça, qui se font pour le coup vilipender, et les mêmes médias, en fait, les attaquent de la même manière, à terrain égal, quoi. Et en fait, donc, d'un seul coup, t'as des gens qui ne veulent plus se produire comme Jerry Seinfeld dans les campus. Et de l'autre côté, t'as Donald Trump qui a des grandes chances de se faire élire. Donc, c'est
on rentre. Ricky Gervais qui relance, lui, son stand-up. Donc, il y a encore de l'espoir quand même.
Oui, bien sûr. Mais je pense que ça sera pas perdu, dans l'absolu.
Aussi, il est dans un militantisme bien identifié qui attaque le versant le plus conservateur des États-Unis.
Et puis il est anglais en plus, non ?
Non, mais voilà, mais c'est victime désignée, c'est les religieux fanatiques. Donc ça, je vais dire, c'est pas que c'est facile, mais c'est un combat qui est d'une certaine façon déjà gagné. Alors que Jerry Seinfeld, qui n'est pas militant, Jerry Seinfeld, c'est juste qu'il se moque, il se fout de la gueule
de
ses contemporains,
trash,
il se fout de la gueule de ceux qui lui ressemblent, c'est-à-dire en gros des démocrates new-yorkais progressistes. Il en fait partie, quoi. Donc oui, il va faire des blagues sur.
Tu fais générique de Seinfeld.
Et ça, c'est tout d'un coup devenu quelque chose d'intolérable. Oui.
Alexandre, au lieu de faire le con.
Pour revenir à Sisters rapidement, c'est un film très SNL. Bon, parce que Tina Fey et Amy Poehler Saturday ont été Night révélés Live. Par le Saturday Night Live. C'est écrit par Paul Appel, qui est une scénariste qui a écrit énormément de sketchs pour l'émission de NBC. Et dans les personnages secondaires, notamment toute la troupe qui s'invite qui est invitée à la fête orgiaque du film, qui dure très longtemps. On repère beaucoup de têtes du casting et actuel et passé de Saturday Night Live. Parfois même manière un peu gênante. Je pense au personnage de Maya Rudolph, qui est un peu leur ennemi d'enfance, qui est très très longuet comme. Enfin, c'est un personnage qui est quand même assez mal écrit et mal exploité. Et en gros, il y a eu beaucoup de films.
C'est un euphémisme hein, dans le film, ils sont tous mal écrits.
Oui, mais elle, c'est le pompon. Et en fait, il y a eu beaucoup de films, pour le coup, dérivés de sketchs du Saturday Night Live, des personnages qui ont vu le jour dans des sketchs et qui ont ensuite été transposés au cinéma. Là, c'est pas le cas, sauf erreur. C'est vraiment un projet qui a été écrit à part par la scénariste. Mais le problème, quand on a déjà signalé précédemment de rythme et de longueur, 2 heures pour une comédie de ce genre-là, c'est vrai que c'est du Joe D'Apato presque, mais sans les justifications qu'on pourrait lui donner. Et moi, je pense qu'il y a eu un défaut à l'écriture de vouloir caser trop de personnages, de rebondissements, etc. Et puis ça se voit dans le même si par définition Saturday Night Live c'est donc en direct, donc c'est un peu sans filet. Il y a notamment dans la scène finale, dans le bêtisier final, ce qu'on est habitué à voir depuis maintenant des années dans les comédies américaines et qui montre bien la différence, je sais pas moi par exemple, avec une comédie à la française type à la Francis Weber où on doit respecter la virgule près. On voit ça dans des films notamment de Will Ferrell, c'est qu'on voit très bien des scènes, notamment celle avec John Cena, où ils testent plein de répliques différentes et ils garderont au montage la meilleure. Et ce qui est à la fois une technique qui peut être redoutable d'efficacité par moment, parce qu'effectivement t'as plein de solutions, mais qui pour moi est un peu aussi une technique de feignant qui pourrait être comparable pour la version mise en scène au fait de filmer avec 4 caméras et hop on choisira sans travailler vraiment sur une esthétique, sur une mise en scène, sur des mouvements topographiques, etc. On est vraiment sur la feignantise où on va choisir après au montage. Donc je pense que le film est pas très courageux, ça revient d'ailleurs à ce que disait Rafik, courageux au sens assumer des personnages avec leurs failles, etc. Et pas très finalement novateur. Moi j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un pitch de film français, ce qui n'est pas un compliment. Sauf qu'évidemment c'est beaucoup plus drôle que si on avait eu ça avec une échappée de scène de ménage et Virginie Fira. mais au final c'est vrai que le film m'a laissé quand même sur la fin, surtout après avoir vu Tina Fey extraordinaire dans sa propre série Unbreakable Kimmy Schmidt, où elle s'est offert un nouveau rôle dans la deuxième saison, où elle est complètement épatante en psychopathe alcoolique, psychiatre et psychopathe alcoolique aussi.
Ce que je trouve vraiment le plus fatigant dans le film, c'est les velléités de rom-com qui sont complètement ratées et qui ont rien à faire en fait dans l'histoire, quoi, qui sont lancées, mal exploitées.
Il y a quand même pour la rom-com, il y a quand même cet acteur merveilleux, je regarde son nom pour pas me
John le penser. Cena.
Ike Barinholtz, c'est le voisin qui se retrouve avec un objet dans le fion, désolé pour le spoiler, et qui est un acteur extraordinaire que j'avais découvert moi dans Eastbound and Down. Il jouait le rôle d'un joueur de baseball russe, il était extraordinaire, et il a récidivé après dans une autre série que je recommande, The Mindy Project, de Mindy Kaling, où il joue le rôle d'un infirmier complètement abruti mais très touchant, et ce gars là, à chaque fois qu'il apparaît, même si c'est pas loin d'être son rôle le plus fou, loin de là, fait partie quand même des bonnes surprises du film.
Moi je pense que le problème de ce film là, c'est qu'en fait on a un duo comique qui ne fonctionne pas. On le savait déjà en fait, déjà avec Baby Mama quoi. Ils avaient fait un film qui est sorti en 2007-2008 ensemble. Ils avaient fait un film qui est sorti en 2007-2008 et qui n'est pas sorti en France, je crois.
Non, il est dispo en VOD, il est sorti voilà, sur radar, en direct DVD.
Et c'était déjà une catastrophe.
Oui.
Et le problème, c'est qu'en fait, Tina Fey, elle peut être très drôle dans son coin. Amy Poehler, elle peut être très drôle dans son coin. Elles peuvent faire des sketchs ensemble au Golden Globes, éventuellement être très drôles ensemble sur scène pendant 2 minutes. Mais tu bases pas un film entier sur... ce que je dirais, 2 alpha femelles, quoi. Je sais pas comment dire ça vraiment. Je sais pas si le terme est. Voilà.
Trigger warning, c'est
parce que le truc, c'est que, comment dire, elles sont très très douées chacune de leur côté, mais les duos comiques qui fonctionnent très bien, on parlait de Step Brothers tout à l'heure, c'est que t'as un mec comme Will Ferrell qui est un vrai putain de génie comique, et à côté de ça, t'as un vrai comédien qui est John C. Reilly qui arrive à jouer en fait avec le génie comique de Will Ferrell. Donc du coup, t'as un mec qui est clairement au-dessus de l'autre.
Et qui
en fait se nourrit de ce que l'autre lui apporte. C'est la même chose dans Domaine de Meur. Je veux dire, t'as Jim Carrey dont on sait que c'est le comique à l'époque où le film sortait. Et là à côté de ça, t'as Jeff Daniels. Et Jeff Daniels, c'est parfait dans le rôle, parce que c'est un putain d'acteur à la base. Là, le truc, c'est que
il y a deux clowns.
C'est deux grands.
Voilà, c'est deux personnages en fait, et qui en plus là où c'est extrêmement mal écrit. Et effectivement, je vais rejoindre Rafik sur toute cette notion de politiquement correct, c'est que t'as des personnages qui sont effectivement des personnages qui sont bourrés de défauts, donc t'es censé t'attacher pour ces choses-là. Et effectivement, moi, les personnages que t'as au début du film, les personnages que t'as à la fin du film, ou même pendant le film, tu les reconnais pas. Tu reconnais juste Tina Fey et Amy Poehler. Et en fait, ils ne fonctionnent pas comme les personnages du film et ce que c'est censé raconter. Donc du coup, t'as effectivement la problématique de pardonner chaque défaut avant même que ça arrive. L'idée d'inverser les rôles, parce que t'as Amy Poehler qui va toujours être la nana stricte, propre sur elle, et l'autre qui va déconner, c'est complètement... c'est peu amené parce que finalement, t'as quand même l'impression, pendant même le début, dès le début, t'as vraiment l'impression que c'est censé être Step Sisters, quoi. Tu vois, je veux dire, en gros, deux personnages un peu connes, un peu stupides, quoi. Donc voilà, c'est. Et donc, en fait, bon, la comédie étant quand même aussi une affaire de rythme, effectivement, faire un film de deux heures où t'as quasiment pas de gag. Enfin, je veux dire, ils mettent quand même 40 minutes à arriver à cette putain de soirée qui finit par commencer, donc t'avais rien avant ça. Les mecs, ils sont en train de griller. Les scènes qui me reviennent comme ça en tête, ils grillent leurs parents en train de coucher. Où est l'humour, où est le gag, il n'y a rien en fait, tous ces trucs-là ne fonctionnent pas, ça va jamais assez loin. Et la
rom-com ne fonctionne pas non plus.
Voilà, et donc en fait, en gros, t'es perdant sur tous les niveaux, et t'es perdant si tu apprécies Amy Poehler et Tina Fey, puisqu'elles sont juste sous-exploitées en fait, dans ce qu'elles peuvent proposer dans ce genre de film. Mais je pense que Tina Fey et Amy Poehler en ont conscience, ça a l'air assez évident, oui. La façon dont ils ont vendu le film aux États-Unis, ça se voyait.
Ça se voit que ça les gêne un petit peu. C'est le fameux film
qui est sorti le même jour que Star Wars, c'est ça?
Ouais,
vous avez fait une campagne basée là-dessus, donc vous pouvez aller voir les deux. Raté.
Pour terminer, on va prendre quelques instants, si vous le voulez bien, pour une petite fournée de recommandations. C'est la tradition, et les traditions, c'est important. Si possible, on essaye de rester dans le domaine de l'humour. On va commencer par toi, Charline.
Et ben, puisque Tina Fey fait partie de ma liste plastifiée de mes 5 amis imaginaires, et que je l'adore.
Est-ce qu'on pourrait avoir une copie de cette liste, s'il vous plaît?
Bah, Jennifer Garner, Drew Barrymore, Kate Winslet.
Donc cette liste existe vraiment,
ouais,
d'accord.
Robert De Niro.
Robert De Niro.
En tant qu'alpha femelle. Je vais parler d'un film qu'elle a réalisé qui s'appelle Mean Girl, qui est une teen comédie. Attention, je vais faire beaucoup d'affirmations qui sont très étranges, dans laquelle on découvre que Lindsay Lohan est une comédienne exceptionnelle. Il y a aussi Rachel McAdams et Amanda Seyfried. C'est une teen comédie avec beaucoup de nanas assez drôles, d'une cruauté absolument jubilatoire. Voilà, c'est un très bon film de Tina Fey.
Sorti en France sous le titre Lolita Malgré Moi.
La première occurrence du Malgré Moi dans les comédies américaines.
écrit par Tina Fey.
Oui,
adapté.
Rafik.
Donc on reste sur Tina Fey, je parlais de Jerry Seinfeld tout à l'heure. Jerry Seinfeld qui a sa série
Comedians in Cars, Getting Coffee,
qui a fait donc un épisode avec Tina Fey dans l'épisode dans lequel on découvre à quel point, comme tous les grands comédiens américains, c'est une névrosée totale. Et c'est donc assez
fascinant. Des histoires de caca notamment.
Voilà, c'est
Fissi assez fascinant. My Purview, c'est le nom de l'épisode.
À quel point, d'une certaine façon, le génie de cette névrose n'est pas pleinement exploité dans son travail. Alors évidemment, clairement pas dans Sisters, mais on peut voir ce qui nourrit des séries comme 30 Rock, etc. C'est une nana complètement fucked up, et c'est en ça qu'elle est géniale.
De manière générale, toute cette série Comedians in Cars, Getting Coffee, c'est assez extraordinaire. Alexandre.
Du coup, je vais pas être très original, mais on va poursuivre sur la foulée Tina Fey. Et je crois que c'est un film dont j'ai déjà dit du bien ici, mais c'est pas grave. Muppets Most Wanted, le dernier Muppets dans lequel elle joue le rôle d'une matone dans une prison russe, avec un accent évidemment totalement improbable, encore plus que les accents qu'on peut faire ici régulièrement.
Que je peux faire, pas cher, mais
Muppets Most Wanted, c'est très drôle. Il y a Ricky Gervais d'ailleurs dedans, on parlait de lui tout à l'heure, et tout un casting au petit cordon, des chansons de Brett McKenzie de Flight of the Conchords, et puis des marionnettes, quoi.
Que demande le peuple? Surtout Stéphane.
Bah, en tout cas, on devrait recommander les Muppets tout le temps, quoi.
C'est vrai. On a fait une émission sur les Muppets, je le rappelle.
C'est vrai. Moi, je vais recommander, puisqu'on était dans la logique du politiquement correct et donc de l'impolitiquement incorrect, pardon.
Tout à fait.
Je vais recommander, j'en ai peut-être déjà recommandé ici d'ailleurs, je ne me rappelle plus, mais en fait, un spectacle de Bill Burr, dont je ne me rappelle plus le nom, mais c'est sur Netflix.
C'est le seul, il y a une comédie spéciale.
Ah, si vous avez Netflix US, maintenant, je crois que c'est plus trop possible, mais il y en avait 2-3 de plus.
Mais sur le Netflix français, c'est le seul de Bill Burr.
Et Bill Burr, donc Bill Burr, B-U-2-R, c'est ma petite découverte de cette année, personnellement je ne connaissais pas. C'est un mec qui est très drôle et effectivement qui joue énormément de ses névroses, notamment sur sa masculinité et ce genre de choses qui est assez amusant.
Histoire de voyage en avion, par exemple.
T'en as un autre truc où en fait il explique, ça c'est dans un autre sketch, où il explique que quand t'es un homme, un homme, un vrai, quoi. En fait, en gros, si tu fais montre d'un tout petit peu de sensibilité, en fait, tous tes copains sont là pour te traiter de pédé et de tapette et tout ça. Et donc, en fait, le mec, il est en train d'expliquer que quand il a envie de faire, exemple, de fêter Halloween, ses amis viennent se foutre de sa gueule parce qu'il lui dit, mais t'es quoi, t'es un pédé, tu veux fêter Halloween. Enfin, bref, c'est assez politiquement incorrect. Ça joue effectivement sur c'est assez bien vu. Ça joue sur les névroses, ses névroses à lui. Mais de toute façon, c'est effectivement ce qu'on disait. Hein, c'est tout la problématique de la stand-up comédie. Du moment là, c'est qu'en fait, par essence, c'est des gens qui sont censés être critiques. Ceux qui sont là depuis des années et des années, c'est des gens qui sont censés être critiques. Donc à partir du moment où ils font ça, forcément ils vont critiquer la société dans laquelle ils sont en train de vivre.
Et pas une critique constructive. Hein, la base de l'humour, c'est un singe qui descend de son arbre et qui te met un taquet sur la tête pour t'orienter d'avoir fait caca dans ton bol de céréales.
Et c'est exactement ça, Bill Burr. Donc moi je vous le conseille. Et voilà, c'est sur et Netflix, c'est une grosse découverte. On a plein sur YouTube, t'as plein d'extraits si vous parlez anglais.
Tout à fait. Et il y a aussi d'ailleurs un épisode de Comedians in Cars Getting Coffee avec Bill Burr, où il fume le cigare avec Jerry Seinfeld. C'est assez magique. Notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Jules à la technique et merci au Tank pour l'accueil. Prochain Nos Ciné version longue, on parlera des X-Men qui nous reviennent avec Apocalypse et ça va chier, je vous le dis. Entre temps, vous savez que si vous ne savez pas quoi faire et si on vous manque trop, un petit tour sur nosciné.com où vous retrouvez toutes nos anciennes émissions. Et puis allez, tant que vous y êtes, faire un tour sur les réseaux sociaux de votre choix pour nous laisser un petit message. Ça nous fait toujours plaisir. On rappelle que Nos Ciné, c'est un podcast, je vais y arriver, du réseau Binge Audio, à retrouver aussi sur binge.audio. Et d'ici là, on vous dit à très bientôt.
Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizi. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Léonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.